France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Et si la mutation numérique que nous vivons depuis une trentaine d'années n'était pas aussi inédite qu'on le croit? Et si d'autres, il y a 150 ans, avaient éprouvé des bouleversements étonnamment comparables? Accélération du temps, saturation émotionnelle, sentiment d'être happé par un flux d'actualité incessant, désir irrépressible de rester connecté au monde. En revenant au moment où la presse de masse s'invente, au XIXe siècle, Guillaume Pinson propose un détour salutaire par l'histoire pour éclairer notre présent numérique. Non pas pour relativiser ce que nous vivons, encore moins pour céder à une forme de nostalgie du papier, mais pour comprendre ce que la disparition du journal imprimé révèle de nos manières d'habiter l'information et d'éprouver le monde, et même de faire société. Guillaume Pinson est professeur à l'Université Laval, à Québec. Il est spécialiste de la culture médiatique des 19e et 20e siècles. Il va publier dans quelques jours au CNRS Édition l'adieu au journal. Et il est cette semaine le premier invité de cette année 2026 pour la suite dans les idées. L'occasion pour moi de vous la souhaiter la meilleure possible. Bonjour Guillaume Pinson, vous allez être rejoint en deuxième partie d'émission par un grand lecteur de journaux, journaliste lui-même, auquel j'ai pensé parce qu'il a très longtemps tenu la revue de presse de France Inter et eu à lire les journaux tous les jours. Il connaît cette expérience par cœur et je suis sûr qu'il trouvera des manières diverses de réagir à vos propos. L'adieu au journal, c'est le titre de ce livre. Il y a 200 ans, on fêtera l'anniversaire en juin de cette année 2026, naissait ce qu'on peut considérer comme le premier journal au sens moderne, commercial du terme, La Presse, un journal d'Émile de Girardin. Il y a 20 ans, naissait Twitter. Entre ces 200 ans et ces 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, des choses à propos desquelles vous choisissez de ne pas vous attarder, notamment le studio dans lequel on est, la radio, l'invention dans les années 1930, la télévision après la Seconde Guerre mondiale, pour penser au fond en mettant en relation ce moment du 19e siècle, à partir des années 1830 surtout, jusqu'à la fin du 19e siècle, et puis cette mutation numérique. Qu'est-ce qui vous a conduit à procéder de la sorte, à faire ce que, moi, je trouve, donne une sorte d'écho à ce qu'on appelle l'archéologie des médias, Guillaume Pinson?
Oui, bah écoutez, effectivement, ce qui m'a conduit à travailler sur un tel objet, c'est d'abord le constat que vous avez fait comme moi, que tout le monde a un peu fait dans les 20 dernières années, c'est cette disparition du journal papier de nos vies. Et j'ai trouvé que c'était pas banal de commencer à réfléchir sur un média qui était en voie de disparition. C'est une première dans l'histoire.
Oui, parce que jusqu'à présent, l'histoire des médias nous a toujours répété qu'à chaque invention d'un nouveau média, voilà, n'entraînait pas la disparition. On sait, la télévision n'a pas fait disparaître la radio, Internet n'a pas fait disparaître la télévision, la radio. Mais le journal papier, il n'a pas disparu parce qu'il est en pixels, mais l'objet imprimé, lui, il a du mal.
Disons qu'il est fragile. Il existe encore. Peut-être que le titre de mon ouvrage est un peu excessif, mais je crois quand même, on peut quand même convenir que le journal n'est plus du tout le média majeur qu'il a été auparavant, et qu'au contraire, il a été à la source d'une immense révolution médiatique au 19e siècle, un gigantesque bouleversement historique, culturel, social, dans toutes les strates de la vie humaine à cette époque. Et effectivement, c'est ce bouleversement que je voyais au fil des années de mes recherches faire écho avec ce qu'on est en train de traverser nous-mêmes. Et puis je me disais, le journal n'est probablement pas éternel, mais il a quelque chose quand même à nous apprendre dans sa naissance, son développement et peut-être, hélas, sa mort, je ne sais pas, mais en tout cas, son retrait de notre quotidienneté, il a peut-être quelque chose à nous apprendre sur ce qu'on est en train de traverser. Et on est, je crois, très, très déboussolé actuellement.
On est déboussolé, on entend aussi beaucoup de discours qui tournent autour de l'innovation, du caractère nouveau de toutes ces technologies, de tous les effets qu'elles produisent aussi. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que c'est là tout l'intérêt de votre travail. Vous cherchez, au fond, à travers ce qui s'est passé au 19e siècle, à montrer comment des effets médiatiques ont déjà vu le jour dans ce moment très particulier dans l'histoire de l'humanité qui correspond à l'invention du journal au sens du journal de masse commercial du 19e siècle, qui est assez différent du journal qu'on a connu auparavant, par exemple les journaux de la Révolution française, la Gazette. Il y a une vraie révolution. Vous appelez ça le moment médiatique.
Oui, oui, c'est ça. Il y a vraiment, ce qui m'intéresse, c'est les effets que le journal a produit justement dans l'explosion là qui a été la sienne, à partir du moment où il s'est mis à couvrir toutes les strates de la société, tous les caractères de la vie humaine, de la dimension de l'espace, du temps. C'est les effets que je trouve intéressant de voir sur les contemporains, donc les effets qu'il a eu sur les contemporains pour reconfigurer l'expérience humaine, redonner des nouvelles formes de sensibilité, des manières de saisir le monde, de se situer dans l'espace, dans la temporalité, de sentir le fonctionnement social, politique de la société. Et c'est ces effets qui ont été vécus à l'époque comme de profonds bouleversements, des bouleversements aigus, sentis souvent avec douleur et désarroi. Hein. Eh bien, c'est ces effets que je trouve intéressants à comparer, à les mettre en relation, en parallèle.
Il ne s'agit pas de dire c'est la même chose.
Non, c'est pas la même chose, c'est ça.
Mais on s'interdit véritablement de comprendre la mutation numérique dans laquelle nous nous trouvons pris depuis une vingtaine d'années si, au fond, on ne mène pas l'analyse de ce qui s'est produit au 19e. Or, la distance temporelle nous permet peut-être de mieux voir ce qui s'est passé au 19e.
C'est ça, ça nous permet de méditer. D'abord, peut-être de regarder les choses plus sobrement. Se dire, c'est pas la fin du monde. Il y a eu des hommes et des femmes, beaucoup, qui ont vécu sans journaux. Et puis, à partir d'un certain moment de l'histoire, ils ont commencé à vivre avec des journaux. Et puis, peut-être que le journal papier donc, n'était pas éternel. Peut-être, c'est un peu la thèse que je tresse un peu au fil des pages. Le journalisme lui-même n'est pas éternel tel qu'on l'a conçu, en tout cas jusque-là. Mais, après tout, j'ai l'impression qu'on va bricoler des recettes nouvelles, qu'on va s'adapter à ce qui est en train de se produire actuellement, qu'on va inventer, qu'on va faire preuve de créativité, comme les hommes et les femmes du 19e siècle ont dû faire preuve de créativité pour inventer le journal moderne.
Alors, on reviendra probablement dans cette émission, dans le cours de cette émission, sur l'avenir, sur le futur, sur la manière dont on va vivre sans les journaux tels qu'on les a connus, en tout cas. Mais arrêtons-nous longuement avec vous sur ce qui s'est passé dans ce 19e siècle. Vous choisissez d'interroger la période en vous intéressant, comme vous l'avez dit, aux effets, différents types d'effets. Et le premier type d'effet concerne les affects. C'est, au fond, la prise en compte des émotions par les modèles économiques commerciaux des journaux et les effets produits en termes d'émotions par les journaux. Au fond, vous proposez un regard anthropologique sur ce qui s'est passé, une véritable rupture anthropologique. Jamais les émotions n'avaient connu un tel régime avant l'existence de ce type de journaux.
Oui, c'est ce que j'essaie de montrer dans le premier chapitre, à travers une réflexion qui est de l'ordre plutôt essayistique que d'une démonstration absolument, je dirais, purement académique.
Elle est quand même très étayée.
C'est-à-dire, je me promène quand même un peu librement, je me prends la liberté de me promener à travers ce que j'appelle ce nouvel âge des affects, d'abord en m'étonnant qu'on n'ait pas tant interrogé l'histoire des émotions. Ça commence à être un peu à la mode, on en parle plus, mais on l'a peu fait jusqu'à l'instant. Et pourtant, je trouve ça assez... C'est dommage. Parce que
c'est pas facile à faire.
C'est très difficile parce qu'évidemment, c'est du ressenti. C'est justement, vous évoquez les questions anthropologiques, c'est à la jonction entre le physique, le ressenti et donc tout ce qui est de l'ordre de l'intellect. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus, accès à ces hommes et femmes qui ont vécu autrefois. Donc, on ne peut pas enquêter auprès d'eux ou auprès pour leur réaction. Bon, mais c'est plutôt l'idée que le journal, en s'imposant dans la vie quotidienne, comme jamais, en proposant une sorte de médiation entre les lecteurs et les lectrices et le monde, en massifiant, démultipliant ce rapport au monde à travers l'écrit, il me semblait impensable qu'il n'y ait pas eu quelque chose comme une grande mutation d'un régime des affects qui était donc provoqué, construit, alimenté tous les jours par le journal. Aujourd'hui, on parle d'économie de l'attention, de pièges à clics qui fonctionnent beaucoup sur ces petites décharges dans le cerveau qui vous donnent envie continuellement de profiter de votre téléphone et de tout ce qu'il peut vous offrir. C'était la même chose au 19e siècle. Ma proposition, c'est que c'était la même chose. Les contemporains ressentaient un puissant désir de connexion. Donc une envie, un besoin de connaître ce que leur journal du matin avait, ou du soir par ailleurs, avait à leur raconter, et donc en modifiant une manière de ressentir le monde finalement.
Au fond, ce qui se joue aussi, c'est une forme de redéfinition de la frontière entre l'espace domestique et l'espace public. On sait que l'espace public démocratique, dans sa forme que nous connaissons, naît aussi sensiblement à cette période. Et au fond, ce qui se joue avec l'invention du journal, c'est la capacité pour les citoyens, plus que les citoyennes à l'époque, parce qu'elles n'avaient pas le droit de participer à la politique. Mais en tous les cas, pour un certain nombre de personnes, leur capacité à laisser entrer chez eux et en eux l'information publique, celle qui concerne la cité. Et ça, c'est vraiment, d'un point de vue historique, assez nouveau.
C'est majeur, oui.
C'est-à-dire qu'au fond, la politique ne se faisait pas à domicile autrefois.
Non, c'est ça. C'est majeur. On sait qu'à partir du entre 18e et 19e siècle, s'invente l'espace privé tel qu'on le connaît probablement encore aujourd'hui. Mais à mon avis, le journal a joué un rôle majeur. Imaginez, tous les jours, vous pouviez avoir dans votre espace privé, donc ce qui s'imposait désormais comme un espace privé, la rumeur du monde racontée, l'espace politique, l'espace social. On pouvait vous mettre en scène l'état de la cité dans le confort du foyer. Donc ça, c'est déjà... Je crois que la rupture importante suivante dans les différents jalons médiatiques, d'ailleurs, c'est la radio. Parce que la radio a fait entrer la voix humaine à l'intérieur, la voix humaine à l'intérieur du foyer, ce qui était tout à fait inouï aussi. Mais donc, c'est cette idée que le journal a permis de prendre conscience de l'espace public d'une autre manière, et donc, par contraste, de mieux délimiter l'espace privé, et de jouer aussi sur un certain régime des affects. Je pense que là, ressentir le monde, le mettre un petit peu à distance en lisant le journal, le ressentir chez soi, se l'approprier différemment. Vous parliez des femmes qui étaient exclues de l'espace public ou du jeu politique, mais à l'intérieur du foyer, elles pouvaient lire le journal aussi. Et puis, on le sait qu'elles le faisaient. Et donc, elles prenaient connaissance aussi de la rumeur du monde, des jeux politiques, sociaux. Bon, donc, vous voyez, c'est
ce qui est très intéressant dans votre démarche, le fait de prendre en compte les émotions, de leur accorder une place centrale dans l'expérience de lecture et de vie en commun, j'allais dire, avec le journal, c'est que ça vient remettre en question finalement une manière de raconter les choses qui consisterait à dire qu'on est passé d'un espace public presque habermasien, du nom de Jürgen Habermas, dans lequel la rationalité conduisait les acteurs avec des journaux très, très structurés, très, très argumentés, et que peu à peu, tout ça se serait délabré sous le coup de la radio, puis de la télévision, puis d'Internet aujourd'hui, où alors ça devient n'importe quoi. Et en fait, vous montrez que non, on ne peut pas écrire cette histoire comme ça, ça n'a aucun sens en fait.
Oui, les émotions, c'est pas nécessairement du désordre non plus, c'est aussi une structuration de la manière d'être. Je pense que ce qu'impose le journal à partir du 19e siècle, c'est des manières de se comporter, par exemple, dans l'espace public. C'est toute cette question de la lecture silencieuse, la lecture du journal dans les transports.
Ça participe de ce que Elias, et vous le citez, appelait le processus de civilisation.
C'est ça, c'est une manière de se comporter, de s'observer les uns les autres. Et ce que les contemporains remarquent, c'est justement, et là où ils expriment des craintes, c'est que cette lecture du journal est inquiétante, parce qu'elle enferme chacun dans une bulle de vie, donc de vie intérieure, et donc là, entre le registre des affects, et qui comporte des risques, enfin, du moins qu'on suspecte, qu'on craint de contenir des risques politiques, des politiques sociaux, d'une sorte de fissure du social qui pourrait en survenir. Alors qu'en fait, il y a ces craintes, mais on sait aussi que le journal, évidemment, et dans les émotions qui va charrier, structure un certain ordre social, une manière de se comporter, de ressentir le monde, de s'indigner à certaines choses, de prendre pitié, d'adhérer à des valeurs, de trouver que voilà, il faut modifier l'ordre du monde, faut des actions politiques pour justement, vous voyez, il y a toute cette structuration du monde qui vient avec ce régime des affects.
Au fond, si on peut citer un nom qui illustre assez bien ce rapport au monde à travers la fenêtre sur le monde qu'est le journal, c'est par exemple les écrits d'un journaliste comme Karl Kraus, sur lequel Jacques Bouvresse a beaucoup travaillé et qui montre dans l'Autriche du début du XXe siècle, au fond, de façon très exemplaire, ce rapport au journal.
Oui, c'est ça. Je pense que tous les contemporains, aussi, vous évoquez Krauss, mais tout le monde finalement se met à utiliser le journal comme un espace et un point de départ de réflexion sur le monde. Donc de le considérer comme un espèce d'étalon à partir duquel on va pouvoir envisager les comportements, les manières de vivre en société, l'état du monde, vers où nos sociétés se dirigent. Donc le journal devient une sorte, à la fois un objet du quotidien et une sorte d'objets à analyser, propices à des analyses, qu'elles soient philosophiques, politiques, sociales, qui permettent de comprendre l'état du monde. Hein. Ça devient vraiment une espèce d'objet culturel incontournable dans l'analyse critique ou historique.
Et ce phénomène se produit, ça c'est un autre trait caractéristique, de manière globale, en tous les cas, dans l'Europe occidentale, comme aux États-Unis, on voit naître dans ces mêmes années 30 en particulier, mais se développer tout au long du 19e siècle, ce type de journaux dans tous les pays.
Oui, c'est ça, c'est une vraie épidémie. Le journalisme, c'est une vraie épidémie. Je l'évoque dans un autre chapitre du livre, mais cette question de la mondialisation, elle est impensable sans la multiplication des journaux qui a donné sens et représentation à cette mondialisation. Notre fameuse globalisation, dans le fond, elle s'invente à ce moment-là.
C'est d'abord une représentation de la globalisation.
C'est ça, c'est que ça ne fonctionne pas que sur de la pure connexion, ça fonctionne sur de la représentation de la connexion. C'est un peu la thèse que je défends dans un autre chapitre.
Évidemment, il y a les cartes qui sont importantes, mais les cartes ne suffisent pas, en fait.
Non, parce que le journal donne la sensation de la connexion, la met en récit, c'est beaucoup plus profond.
On l'éprouve,
on voit ce que voient les autres, on lit ce que lisent les autres, on est déjà dans une ère de la viralité en fait. Hein. On le sait, on le voit bien que tout ça circule, et donc ce modèle du journal lui-même s'exporte, s'imite, se diffuse dans toutes les presses à travers le monde, et puis donc structure la manière de saisir l'ouverture du monde, le décloisonnement, l'ouverture de la possibilité du voyage, donne l'envie du voyage autrement. Ça représente vraiment les nouvelles échelles du monde, en fait.
On va revenir sur ce que vous appelez un empire de papier dans un autre chapitre. Mais donc, votre premier chapitre est centré sur les émotions, sur ce que vous nommez le nouvel âge des affects, en puisant aussi sur cette façon de prendre en compte les émotions dans le travail historique. Mais il y a une tendance encore plus nouvelle, et d'ailleurs c'est le titre d'une revue dont on parle de temps en temps à la suite dans les idées, Sensibilité, la revue Sensibilité. Il y a une tendance encore plus récente de la part d'historiens de tenter de faire l'histoire des sensibilités. Alors c'est un peu ce à quoi vous essayez dans ce second chapitre qui est sous-titré « Écouter le journal » de manière assez étrange. Parce qu'au fond, on est dans ce moment de l'imprimé, de l'encre et du papier. On est bien avant la radio. Vous faites non seulement le pari de ne pas considérer la radio et la télévision dans votre livre, ce qui est un pari...
Je m'en excuse.
C'est une expérience intellectuelle particulièrement intéressante. Et ça vous permet peut-être d'ailleurs de souligner ce qu'il y a de sonore dans le journal. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, mais c'est-à-dire que j'ai fait un exercice de méditation, si on veut. Je me suis dit, essayons d'imaginer l'univers avant Edison, avant l'invention du gramophone, et un peu plus tard, donc la radio, tout ça. Donc à ce moment où les humains n'avaient pas accès à du son conservé qu'on pouvait reproduire à partir de machines. Et je me suis dit, mais quel était le dispositif qui leur permet d'entendre et de réactiver une sensibilité sonore du monde? Quel était le dispositif qui était le plus élaboré, le plus technologiquement achevé, le plus convaincant pour les contemporains? Moi, je crois que ça tombe sous le sens. C'était le journal papier.
Mais d'ailleurs, puisque vous citez le nom de Thomas Edison, c'est lui qui invente le phonographe, et je crois que... Enfin, il est écrit dans des biographies que s'il l'a fait, c'est sous le trauma, au fond, des morts de la guerre civile américaine, avec le projet de faire entendre la voix des morts, en fait.
Oui.
Et cette idée d'entendre la voix des morts, le projet même de rendre techniquement possible l'enregistrement de la voix humaine, qui naît de ce fantasme, ce désir de faire ressurgir la voix des morts, au fond, il a probablement été rendu possible par le fait que ces voix ont d'abord été des voix de papier. C'est-à-dire que ces morts de la guerre civile américaine. Certes, on n'a pas pu les entendre parce que la technologie n'existait pas, mais on pouvait les entendre à travers les propos qu'on lisait dans le journal.
Absolument, c'est ça. Oui, à la base du phonographe, il y a cette idée qu'on voudrait conserver la voix des morts. C'est un des grands filons de l'invention du phonographe. Mais effectivement, je pense que l'idée de non seulement conserver, mais de restituer la voix des morts, ça, c'est le journal qui invente et qui donne l'idée aux contemporains, cette bonne idée de se dire « Ah, mais on pourrait inventer cette machine qui nous... » Mais avant qu'on l'invente, il y avait effectivement le journal qui était un dispositif qui s'est mis à cloisonner les discours, à les organiser. Donc, on ne pouvait pas reproduire de la parole vive, du dialogue, sans que ça soit clairement indiqué, pour ne pas entrer dans une sorte de brouillage des voix. Et donc, le journal fourmillait de petits trucs pour nous faire entendre toutes sortes de sons.
Donc un mode d'écriture, par exemple, c'est deux points ouvrez les guillemets.
Deux points ouvrez les guillemets, des tirets, donc les guillemets, des rubriques, toute des rubriques comme les échos, une terminologie, les rumeurs qui va avec tout le fonctionnement du journal et qui permettait d'activer une mémoire acoustique. Vous voyez, quand on lit un journal, spontanément, on se dit, on voit des choses. C'est le visuel qu'on a en premier. Mais le monde n'est pas fait que de choses qu'on voit. Quand le texte nous raconte des sons, je pense qu'on les entend souvent aussi. Et c'est cette mémoire acoustique qui était majeure dans le journal.
On pourrait même faire le pari ou émettre l'hypothèse que quand on lisait le journal au XIXe siècle, il était sans doute plus sonore qu'aujourd'hui dans la mesure où les gens qui avaient l'habitude de lire le journal n'étaient pas exposés à la télévision. Nous,
absolument,
on associe au fond des citations d'acteurs publics qu'on lit dans le journal à leur figure qu'on a pu voir dans les journaux télévisés, ce qui était évidemment impossible et impossible à une époque où la photographie dans le journal n'était pas aussi répandue qu'elle l'est aujourd'hui.
Mais oui, c'est ça. La réalité sonore du monde, le discours était important, le discours politique. On invente donc des journaux qui sont spécialisés dans la reproduction de la parole politique. Donc il s'agit des sténographes se mettre au travail, c'est une profession qui s'invente. Au moment donc il faut recueillir fidèlement cette parole qui est avant tout une parole prononcée. Et c'est là que, là c'est un exemple parmi d'autres, où finalement les contemporains qui ont soif de nouvelles, qui ont soif de compréhension de leur monde, eh ben on ne va pas évacuer toute la partie sonore sensible de leur univers, de cette réalité. Ils veulent aussi entendre parler de leur monde. Ils veulent qu'on leur décrive. Les reporters qui vont sur le champ de bataille doivent décrire les sons de la guerre, par exemple, des conflits, de la souffrance. Ils doivent décrire les cris. Et tout. Je fais le pari que les contemporains entendaient. Peut-être entendaient plus que nous, parce que nous sommes tellement habitués à avoir ces dispositifs technologiques enfoncés dans le creux des oreilles que finalement le son vient à nous avec une évidence qui n'était pas celle du XIXe siècle. En fait, une évidence qui se jouait, je crois, assez différemment sur cette capacité d'imaginer les sons.
En vous lisant, en lisant ce chapitre titré « Écoutez le journal », j'ai repensé à une remarque que je me suis souvent faite en observant les journalistes au travail, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à observer les journalistes au travail. Je me suis rendu compte à quel point un journal, avant d'exister, et surtout un journal quotidien, était performé oralement par l'équipe qui produisait ce journal. Le reporter qui arrive du terrain raconte à son chef de service ce qu'il a vu et qui va donner la matière première avant même qu'il se mette devant l'écran de son ordinateur à écrire le texte. Ce chef de service va devoir, en réunion de service, expliquer ce qu'il y a dans l'article que son reporter va écrire. Ou à la conférence de rédaction le matin, chacun va dérouler le menu. Comme si, au fond, le journal tel qu'on pourra le lire le lendemain était donc performé oralement à travers un nombre important de réunions à travers la journée, parce que c'est comme ça que se coordonne le travail d'équipe. Le journalisme est d'abord un sport collectif. Et le journal s'entend. Il suffit de passer une journée dans un journal quotidien la veille de la parution du numéro pour avoir déjà tout entendu le journal. En fait.
Absolument. Ça, en fait, c'est ce que je montre aussi. C'est un univers sonore dans sa fabrication, dans l'imagination qu'on s'en fait aussi de vue de l'extérieur. Et le journal est aussi la source d'un environnement urbain bruyant. Les crieurs de journaux envahissaient les rues. Il y avait des milliers de crieurs de journaux dans une ville comme Paris. Donc, tous les jours, ils arpentaient le trottoir, criaient, annonçaient les nouvelles. Et donc, il y avait cette dimension bruyante du journaliste qui frappait les contemporains. Le journal existait non seulement comme papier à manipuler, mais comme dispositif culturel bruyant, hein, qui prenait de la place dans l'espace public, hein, qui était visible, audible, tout autant que lisible d'une certaine manière. Là, absolument. Et donc, les rédactions, les machines, l'invention des rotatives, tout ça, qui sont extrêmement bruyantes, hein, elles charrient dans l'imaginaire, dans certains romans, dans certains films. C'est ce brouhaha incessant là, de la fabrication du journal.
Dans sa tentative que j'espère non désespérée de sauver ou de sauvegarder cet objet multiséculaire, cet objet éditorial journal, qui soit au fond fait de papier et d'encre ou de pixels aujourd'hui, Mediapart, quand il s'est lancé, a choisi comme logo un crieur de journaux. Oui. Alors certes, c'était un hommage à François Maspero et au logo de La Découverte, mais c'est aussi une tentative, et il y en a d'autres dans cette forme-là, de conserver un certain nombre de de caractéristique du journal.
Oui, c'est ça. Le Crieur est un emblème. Ça a toujours été une figure médiatique. C'est pas simplement celui qui vend le journal dans la rue. C'est aussi un emblème, une sorte d'icône médiatique, un petit héros de la modernité médiatique.
Il ne reste plus qu'un vendeur de journaux dans la rue à Paris du Monde.
Oui, c'est ce qu'on dit.
Qui a raconté raconté son histoire dans un livre, d'ailleurs, oui. Il y a quelques années.
Oui. Il resterait un ultime crieur de journaux.
Ah, mais il est encore là, je l'ai vu la semaine dernière.
Il est tellement là qu'il a même un compte Instagram et qu'il a une figure publique. Semble-t-il qu'il va être décoré par le président Macron. J'ai entendu dire ça. C'est une icône médiatique depuis tout le temps. Et puis, c'est peut-être une icône, par exemple, pour Mediapart ou dans l'imaginaire collectif, d'une sorte de connexion directe. Que suppose le journal. C'est-à-dire que pour lire un journal, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le remette. C'est un dispositif physique. Il faut que quelqu'un tende le bras. Quelqu'un vous le vend, vous le prenez. Il y a un contact humain. Le Crieur est peut-être le premier, le plus évident contact avec un kiosquier. Bon. Donc quelqu'un qui vous amène votre journal, qui vous le tend. Ça, c'est des gestes qui ont complètement disparu par ailleurs.
Alors, dans un troisième chapitre, vous abordez la question de l'empire de papier. On en a déjà dit quelques mots. C'est-à-dire la manière dont le journal est l'un des instruments par lequel la globalisation, la mondialisation s'opère. C'est aussi à l'intérieur des pays, par exemple, de la même façon que le télégraphe va régler l'espace-temps, parce que les deux vont ensemble, faire advenir un temps universel ou un temps partagé, y compris dans des pays où c'est compliqué, où il y a plusieurs, comme le Canada, où il y a plusieurs zones horaires. Le journal va jouer un rôle d'intégration sociale que le sociologue de la presse, Robert Park, dès les années 1920, a bien mis en évidence. Guillaume Pinson.
Oui, c'est ça. Ça a été un instrument d'interconnexion, de liaison entre les humains et d'une liaison finalement complémentaire, imbriquée au développement des infrastructures de transport. Donc, bon, les lignes de chemin de fer, les bateaux à vapeur, le télégraphe, les grands réseaux internationaux qui vont se développer à partir du milieu du 19e siècle, et puis qui vont réduire considérablement les temps de circulation de l'information. Imaginez, tout à coup, il faut 1 ou 2 minutes, là, une information pour traverser l'Atlantique. On est sur des registres temporels qui sont complètement inédits. Et donc, le journal va et l'élément en fait essentiel, mais curieusement on n'a pas beaucoup fait l'histoire du journal sous un angle international de globalisation. On a fait les réseaux de transport, tout ça, le télégraphe, mais le journal, mais pourtant il est essentiel, parce que comme on le disait tout à l'heure, sous cette interconnexion, cette synchronisation de la planète, elle n'est pas pensable sans une manière de la représenter, de la mettre en histoire, de la donner à lire tous les jours pour confirmer aux abonnés, aux lecteurs, tout ça, qu'effectivement, ils sont en train de lire un objet qui les met au centre du flux et de la connexion médiatique.
Mais si on ne l'a pas fait, c'est peut-être aussi parce que ces objets sont aussi des objets profondément nationaux, qui ont participé de la construction de ces communautés imaginées, comme dit Benedict Anderson, qui ont permis à des pays de voir le jour, je pense à l'Italie en particulier.
Oui, c'est ça, c'est un objet qui est associé à l'invention de l'État-nation moderne, évidemment. Là, les journaux participent de ce mouvement-là, de l'invention des nations occidentales. C'est un outil indispensable dans la politique, dans le fonctionnement des démocraties, tout ça. Donc, spontanément, on l'esquive un peu dans la dimension
internationale.
C'est
les deux.
Mais c'est complètement paradoxal.
C'est les deux.
Parce que l'un ne va pas sans l'autre.
C'est une communauté de nations, en fait.
C'est impensable. Il n'y a pas de nation sans internation. Et donc, le journal est l'élément qui permet aux lecteurs et aux lectrices de se dire, voilà, j'appartiens à telle nation. Et si je suis dans cette nation, c'est que je ne suis pas dans telle autre nation. Et dans cette autre nation, eh bien, mon journal envoie des reporters pour me tenir au courant de ce qui se passe là-bas. Et donc, les reporters sont un peu les ambassadeurs de mon journal et donc de mon pays. Mais au fond, quand on voit la masse de ce qui circulait à l'époque, ben en fait, tous ces journaux-là, ils se copiaient-collaient les uns les autres, ils se plagiaient à certaines époques.
D'ailleurs, avant qu'il invente la presse en 1836, Émile de Girardin avait inventé un autre journal qui s'appelait Le Voleur, qui est un journal de copier-coller, au fond, bien avant qu'on invente le copier-coller. Mais bon, la mondialisation, ça se voit dans le titre de ce journal, Le Monde. Mais ce journal, Le Monde, avant de s'appeler Le Monde, il s'appelait Le Temps. Et la question des temporalités, elle est extrêmement importante aussi. Ça fait l'objet de votre dernier chapitre. Et notamment, au regard d'une chose qui là vraiment, je pense, a été profondément bousculé avec la mutation numérique, c'est-à-dire la disparition avec le numérique d'une notion essentielle pour le journal, la périodicité.
Oui.
Au fond, le numérique, c'est la fin du à suivre. C'est la fin de l'idée qu'il y a des éditions, aussi nombreuses soient-elles. Parce que avec le petit journal, Girardin, au milieu du 19e siècle, il a 13 éditions. Il a inventé France Info avant France Info, en quelque sorte. Mais malgré tout, ce sont des éditions. Ce n'est pas le flux continu des chaînes de télévision qu'on connaît aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Je pense que le geste horizontal emblématique, c'est de tourner la page. Donc, c'est tourner la page. Déjà, il y a une petite seconde d'intervalle. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur la page suivante ?
Vous savez que dans sa première formule, toute première formule, Mediapart, en 2008, avait un système qui affichait les pages, qu'il fallait les tourner.
Oui,
c'était trop lourd techniquement, il a été vite abandonné. Mais l'idée, c'était aussi
de conserver le geste,
Peu
l'idée du geste, c'est ça. Mais il arrive un moment où on referme complètement le journal et le journal est terminé. Donc, il faut attendre celui du lendemain. Évidemment, on peut aller lire l'édition suivante, mais il n'y aura pas beaucoup de différence avec la précédente. Donc, il y avait vraiment cette idée d'une périodicité, une attente. Il y avait des interstices temporels que nous avons complètement perdus, j'ai l'impression. Dans le scrolling infini,
on est dans
la verticalité. Oui, c'est ça. Mais alors, un live obsédant qui, à mon avis, l'a fait retour sur nos conceptions du temps, sur les émotions dont on parlait, sur notre manière d'appréhender notre rapport au monde. Là, on est de l'ordre d'une mutation assez fondamentale, justement, dans le rapport au monde.
Là aussi, une mutation anthropologique,
ce
rapport au temps, parce que je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sur le rapport entre le public et le privé, entre l'espace domestique et l'espace public. Au fond, la disparition de cette notion du « à suivre » ne laisse plus du temps pour alterner entre le public et le privé et à contribuer à accélérer le brouillage de cette frontière entre public et privé.
Oui, c'est ça. Je pense que ça brouille à peu près toutes les frontières que le journal avait contribué à établir au 19e siècle. Ces frontières-là sont bouleversées par le régime du flux continuel dans lequel on est exposé et dans lequel on demande au consommateur de mettre fin à sa consommation. C'est la seule manière d'arrêter le flux. Au contraire du journal, qui à un moment donné, on l'a lu au complet, il faut s'arrêter. Là, vous pouvez scroller à l'infini. Il y a une offre, telle offre qui se retrouve dans le creux de notre main que là, je crois que là, on est emporté dans quelque chose qui est nouveau, dans la manière de consommer les objets médiatiques. Même si je suis d'accord, il y avait la télévision, enfin, il y a toujours la télévision, mais la radio, tout ça, il y avait une convergence. Mais ce que je veux quand même montrer, c'est ce rendez-vous quotidien avec le journal qui permettait une sorte de respiration, c'est-à-dire de prendre connaissance du monde et puis méditer un peu le monde, avoir un temps d'arrêt, et de là, dans ce temps d'arrêt, de prendre un peu la mesure de ce qu'on a lu. Et puis d'envisager la suite. Je crois dans un désir profond d'attente. Les contemporains de l'époque attendaient avec ferveur leur journal. Ils voulaient le lire. Ils voulaient lire le journal auquel ils étaient abonnés. Ils voulaient lire leur roman feuilleton. Ils avaient des émotions très fortes, très vives, engagées. Mais il y avait ce moment de suspension. Et là, je pense que là, c'est ça. Il y a actuellement un contraste qui me semble assez inouï, assez vertigineux, en fait.
Le sociologue du numérique Dominique Boulier propose de caractériser Twitter, devenu X, comme horloge atomique de la vie démocratique, de la vie politique. Et on voit que si ce réseau social est devenu l'horloge atomique de la vie politique, alors un certain nombre de questions émergent sur les effets que la disparition du journal papier peuvent produire sur un espace public démocratique.
Oui, c'est ça. Je pense que là, il faut convenir que c'est un petit peu aussi ce qui traverse mon ouvrage, cette idée que probablement qu'on ne fera plus du journalisme comme on en a fait dans ces deux derniers siècles, du fait justement de dispositifs comme celui de X ou d'autres réseaux sociaux ou d'autres plateformes numériques. Je crois quelque chose qui est en train de s'inventer et pour lequel là, le modèle du journal ne convient plus d'une certaine manière, étant profonde. En fait, c'est là que je dis un peu adieu au journal, c'est-à-dire aujourd'hui, les choses sont tellement en train de changer à grande vitesse du fait des supports. C'est une nouvelle économie, c'est de nouveaux supports matériels, c'est un rapport donc ici à l'écran qui transforme complètement la manière de lire, de consommer en simultané des informations qui viennent en images, en son, en texte. Et donc là, je pense qu'on est sur un registre qui fait que c'est là que je trouve que le journal nous paraît extrêmement daté, là, un peu ancien, là, comme s'il s'était arrêté de nous suivre dans notre évolution d'une certaine manière sociale à une échelle plus large, quoi.
On va voir si le journaliste, mais aussi titulaire de longues années de la revue de presse de France Inter, Claude Askolovitch, l'homme qui n'a pas dit adieu, mais plutôt bonjour aux journaux et à leurs lecteurs et lectrices tous les matins, partage votre constat et vos analyses. Il nous rejoint, c'est après un extrait d'un des albums marquants de l'année, celui de Blood Orange, Mind Loaded.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
L'adieu au journal, c'est le titre du livre de Guillaume Pinson qui paraît dans quelques jours CNRS édition et dont nous parlons dans cette première suite dans les idées de l'année 2026. On en parle aussi maintenant avec Claude Askolovitch. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir sur une chaîne cousine d'Inter où on peut vous entendre le samedi matin à 8h16. Non plus pour faire la revue de presse que vous avez tenue pendant de longues années et qui est la raison pour laquelle j'ai pensé vous inviter, mais pour les mots d'Asco, ça c'est 8h16 le samedi matin sur Inter.
Ça ne parle que de son, là.
Ça ne parle...
Ah oui, c'est de la radio. On parle des sons, on discute des sons.
Absolument. Alors, l'adieu au journal. Moi, j'avoue que le titre m'a un peu traumatisé. Le livre de Guillaume Pinson est magnifique, nous permet de comprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut se dire qu'il est encore temps de résister, de conserver le journal, de le faire évoluer, etc. Comment vous recevez cette idée, au fond, de la disparition quasi obligatoire du journal en tous les cas dans sa forme imprimée, et du journal plutôt quotidien, parce que ça laisse de la place à d'autres périodicités sans doute, Claude Askolovitch.
Comme une étrangeté, comme une blessure intime, et comme une perte et comme un danger. On va commencer par le danger. Il y a eu des études très savantes, très intelligentes, qui expliquent que le trumpisme n'a été possible aux États-Unis que par la disparition qui avait précédé de la presse locale. Je parle principalement de la presse locale, qui a été ma grande histoire d'amour et ma grande découverte des années revues de presse. Pas la seule, j'adore la presse catholique par exemple, mais la découverte de l'infinie richesse, diversité, complexité, contradiction parfois, de notre presse locale, encore très vivace, a été vraiment une révélation pour moi. Bref, aux États-Unis, c'est la disparition des journaux locaux qui était consubstantielle. Je parle à un Américain, là, même Canadien, à la démocratie américaine. Souvenez-vous du film « L'homme qui tua Liberty Valance », immense western de John Ford, qui raconte en réalité l'arrivée du droit, l'arrivée de l'état de droit dans un petit bled paumé, terrifié par un bandit, Liberty Valance. Au milieu de cette histoire, où il y a John Wayne qui est amoureux, qui se fait piquer sa cognée, peu importe, il y a un journal. C'est un journal qui résiste aux bandits locaux. Eh bien, quand les journaux disparaissent, reste la place, restent les rumeurs, reste la peur, reste qu'on se chuchote, reste l'imbécilité pathétique des réseaux sociaux, reste évidemment, après tout cela, le trumpisme. Et donc, quand on voit ce qui monte dans notre pays, ce que j'ai ressenti, moi, toutes ces années de revues de presse, et encore aujourd'hui, parce que c'est Emmanuel Kant qui disait que quel pédant, mais quel cuistre. Mais enfin, voilà. D'un vague souvenir de l'école, je sais qu'Emmanuel Kant disait que la lecture du journal était sa prière quotidienne. Eh bien, moi, tous les matins, y compris dans mes nouveaux boulots, je bosse pour une télé qui s'appelle Nouveau 19, qui appartient à West France, et toujours donc pour Inter.
Donc, un journal imprimé.
Absolument, mais c'est une télé, mais c'est très important. Je lis la presse locale. Presse nationale aussi, presse parisienne, presse sportive, presse confessionnelle, je lis la presse locale. Et j'y trouve une bienveillance, une manière de regarder la société aux antipodes de la dinguerie, de l'imbécilité, de la paranoïa qui est entretenue par des chaînes de télévision que je ne nommerai même pas. Ça nous garantit. C'est la part encore rationnelle du peuple. Elle a des défauts, la presse locale, que toute la presse a des défauts. Elle n'est pas parfaite, parfois trop proche des pouvoirs, parfois trop éloignée, peu importe. Elle est là. Et elle permet de raconter que non, tous les migrants ne sont pas en train de nous terrifier, et tous les non-migrants en France ne sont pas en train de chasser des migrants, mais qu'au contraire, un peu partout, tout le temps, il y a un jeune gars qui est arrivé, tout paumé d'Afrique, qui a été pris en main par des militants, et là, ça y est, le gars, il est cuistot, et on va aller bouffer chez lui. C'était dans un journal local hier. Il reste... Des histoires comme ça, tu en as tout le temps. Donc, je pense que si effectivement, à un moment donné, on doit dire adieu aux journaux, si les journaux, parmi le ruse, parmi l'artefact, parmi le talent, ne réussissent pas à se maintenir, alors ce qu'on va appeler globalement le fascisme viendra, et cette maison, Radio France, à laquelle je tiens mais passionnément, charnellement, dont j'ai fait et dont nous faisons très souvent le complément de la presse écrite, parce que c'est un endroit où on réfléchit.
On ne pourrait pas faire la radio sans la presse écrite.
On est dans le même univers culturel, mais nous, sans la presse écrite, et nous avec le fascisme, j'ai mis les guillemets, on sera balayé dans les 10 minutes. Et donc, je ressens ça comme une blessure intime, parce que j'ai passionnément aimé, pendant 8 années de ma vie, à me lever à 2h du matin, cette presse, et jamais je n'ai regretté d'être en train de lire tout mon pays à l'aube, et parce que je sais que si nous la perdons, ce qui est arrivé aux États-Unis d'Amérique nous arrivera en pire, parce qu'on est en plus un pays hyper centralisé, sans les contre-pouvoirs. Il n'y aura pas de Mamdani français.
Guillaume Pinson.
J'entends ce témoignage bouleversant, en fait. Ce qu'on entend ici, c'est un attachement viscéral, un témoignage d'attachement profond qui est un peu l'esprit de ce que j'ai tenté de saisir. C'est-à-dire, le journal, c'était un... Je parle un peu au passé. Enfin, je parle au passé dans mon livre pour accentuer l'effet d'étrangeté, d'insister sur cette idée que le journal est peut-être un objet du passé, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais ce que j'entends ici, c'est cet attachement viscéral, émotif, au journal, et ça je trouve que c'est justement important, c'est une grande partie de cette histoire, parce que ces objets médiatiques, on s'y est attaché à travers le temps, on les a ça a été pour nous une seconde peau, je crois, puis quand on a un certain âge, ben, on a vécu, on a baigné là-dedans tous les jours, on a baigné là-dedans, donc c'est pas évident de dire adieu dans un tel contexte au journal. Mais je suis un petit peu plus optimiste que vous, moi, sur l'avenir.
Si vous pensez que quelque chose peut... Ok, un exemple. Si c'est la forme papier, ok, lire l'équipe le matin en prenant mon petit déjeuner, plaisir des vacances, très bien, à la terrasse d'un café, ok, peut-être ça ne se fera plus. Mais Internet, qui est une saloperie, n'est pas qu'une saloperie, puisqu'on peut maintenant, dans n'importe quel coin du monde, lire le journal du Centre, ou la Provence, ou la Croix, ou quelque journal, ou le Devoir, quelque journal que j'ai envie de lire, je peux le lire. Donc il y a des moyens, sous forme de PDF, etc. Moi je parle simplement, quand je parle des journaux, je parle de l'épaisseur du journal, ce qu'on appelle la main dans notre langage. Sylvain, vous avez été aussi en presse écrite. Le fait que la simplification obligatoire qui est celle des médias électroniques ou des médias d'image, plus complexe la radio, parce qu'on prend du temps, mais enfin, je parle ici, je suis à France Culture, on prend du temps. Mais enfin, globalement, un journal télévisé, c'est quelques pages d'un journal écrit. Et on ne peut pas appréhender une histoire et son contraire et son complément, oui mais, et un autre éclairage. Qu'est-ce que tu peux en penser si tu n'as pas cette forme papier ? Je sais qu'il y a l'arborescence d'Internet, mais en vrai de vrai, je l'expérimente dans ma propre famille. J'ai connu ma maman que j'aime passionnément, lectrice de journaux. Je connais ma maman scotchée sur Facebook. C'est un effet du temps, de l'âge, de l'isolement. Je suis un salaud, j'ai qu'à la voir plus souvent. Mais bien évidemment, les raisonnements ne sont plus les mêmes. Je parle là d'une femme intelligente et cultivée. Tu sais, la phrase de Keynes, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La simplification du monde aujourd'hui nous submerge, quoi que nous fassions. J'ai pas d'autre antidote que les journaux. Si vous avez, je prends.
C'est très important, je crois, ce que vient de dire Claude Askelovitch, Guillaume Passon, à propos de l'incapacité que le numérique a encore aujourd'hui à faire circuler autre chose que des unités, c'est-à-dire un article tout seul. On ne peut pas faire circuler vraiment un dossier avec toutes ses nuances, avec les contrepoints, avec... Et ça, c'est terrible parce que, au fond, tout le travail de mise en page, c'est ça l'objet séculaire, multiséculaire, journal qu'on a inventé. Comment le préserver?
C'est l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu ici, c'est que c'était un support, le journal, qui permettait de configurer cette pensée, ce temps de déploiement de l'esprit, d'un raisonnement critique, d'un certain discours, et donc qui était profondément lié au support lui-même, c'est-à-dire du papier sur lequel on allait imprimer des caractères, et donc qui exigeait du consommateur ou de la consommatrice le temps de la lecture. Donc là, on est vraiment sur des questions à la fois de matérialité et de temporalité. Et là, on est en train de perdre, de bouleverser complètement ça. Je suis complètement d'accord avec vous. On est en train de perdre justement cette capacité, dans un espace relativement dense, de fournir une information de qualité.
Mais au fond, c'est aux designers de jouer, parce qu'il faut inventer les interfaces qui nous permettront ça.
Voilà, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Au XIXe siècle, les hommes et les femmes se sont trouvés affolés devant l'arrivée du journal. Ils étaient complètement bouleversés en se disant « Mais qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce que c'est que ce déluge qui nous submerge d'informations ? On perd ses repères sur le temps, sur l'espace. Qu'allons-nous faire ?» Eh bien, ils se sont adaptés, ils ont inventé des manières de faire, et puis finalement, ils ont inventé le journalisme moderne.
Claude Askelovitch, un mot, un dernier, sur une des dimensions vraiment troublantes que met en avant Guillaume Pinson, à savoir la disparition de la périodicité, le flux continu permanent. Est-ce qu'on peut vivre comme ça, en fait ?
Je ne vis pas comme ça, mais j'ai l'avantage d'avoir 62 ans, bientôt 63. Moi, j'avais rencontré la revue de presse à un moment de mon existence où je n'avais plus envie du monde contemporain. Paradoxalement, c'est en lisant la presse que j'ai mieux appréhendé le monde dans lequel je vis. Ce qui n'est pas forcément la même chose, le monde dans lequel je vis et le monde contemporain. Oui, je récuse ce flux. Je prétends qu'il n'est pas intéressant. Mais je suis très seul. On n'est pas très seul, on est quelques millions à être encore sur nos radios. Mais oui, ce qui est terrifiant, c'est que c'est plus vaste. Comment faire pour réfléchir ensemble si on n'a pas la même base, si on n'a pas les mêmes informations qui nous arrivent, puis après, disputons-nous, on est fait pour ça. La manière, on parlait des réseaux sociaux, la manière dont les informations, les éléments nous arrivent, c'est aussi ce qu'on appelle les bulles cognitives. Les gens de droite ont des éléments de plus en plus à droite, les gens de gauche ont des éléments de plus en plus à gauche, les juifs des éléments de plus en plus juifs, les antisionistes des éléments de plus en plus antisionistes, etc., etc., etc. Et donc, comment fait-on pour parler de la même chose, pour parler ensemble, si on ne parle plus de la même chose, et là on est mort.
Merci, merci beaucoup Claude Askelovitch, merci Guillaume Pinson, et une bonne année à tous les deux.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Actualité pour terminer cette émission avec le dernier numéro de la revue Mouvement consacré à la démocratie d'interpellation. Les contre-pouvoirs au service de la République. C'est avec vous, Hélène Balazar, bonjour.
Oui, bonjour.
Je me suis dit que ce serait intéressant de vous entendre parler de ce numéro parce que c'est vrai que la presse est absente d'un numéro sur les contre-pouvoirs. Peut-être faut-il y lire quelque chose, non pas de volontaire, mais d'assez symptomatique sur la place de la presse. N'empêche que ce numéro de Mouvement est passionnant. Vous l'avez coordonné avec Simon Cotin-Marx, Antoine Gontier, Thomas Kirschbaum et Julien Talpin. Et vous vous intéressez à une dimension passée peut-être un peu trop sous silence de ce qu'on appelle la démocratie participative et qu'on a tendance à renvoyer aux conventions citoyennes, à tout un tas de dispositifs plus ou moins gadgets, alors qu'elle est peut-être d'abord et avant tout cette démocratie participative, une démocratie d'interpellation.
Oui, tout à fait. La démocratie participative, elle a été réduite souvent aux dispositifs participatifs institutionnels, donc qui sont pensés par les institutions qui font participer des habitants, des citoyens, sur les sujets qui, c'est eux qui les mettent à l'agenda la plupart du temps. C'est eux qui définissent les règles. Et donc, ça met effectivement sous silence toute la vitalité démocratique qui va s'exprimer à travers des mobilisations citoyennes, des collectifs informels ou même formels au sein d'associations qui vont émettre des propositions, qui vont toquer à la porte des élus, des décideurs pour faire valoir des intérêts collectifs définis entre citoyens qui sont en fait qui font de la politique vraiment au sens étymologique du terme, mais qui ne sont pas ni dans un parti ni dans un dispositif conventionnel comme un conseil de quartier ou une convention citoyenne.
Alors, cette notion d'interpellation, elle est pas si fréquente, en tous les cas, dans le contexte français. J'en veux pour preuve que le mot « accountability », par exemple, on n'a pas vraiment de traduction en français. Et je pense que c'est pas tout à fait un hasard. C'est-à-dire, ce qui se passe au Parlement britannique, par exemple, ne serait-ce que ça, et dans un dispositif très institutionnel, toutes les semaines, avec l'apostrophe, l'interpellation du Premier ministre par son opposition, on n'en connaît pas véritablement l'équivalent dans notre système politique. Et de manière plus générale, l'idée même d'interpeller les professionnels de la politique n'est pas très fréquente en France.
Oui, alors là, ça renvoie vraiment à la philosophie politique sur laquelle s'est construite notre démocratie en France, qui est assez différente de celle sur laquelle s'est construite la démocratie, la monarchie parlementaire anglaise, par exemple, où il y avait toujours une part inaliénable du pouvoir qui restait... les habitants, les citoyens qui allaient voter gardaient une part inaliénable de pouvoir. Ils ne donnaient pas toute leur souveraineté à leurs représentants. Alors qu'en France, le modèle sur lequel a été construit, avec issu des réflexions des Lumières et après la Révolution, sur lequel a été construite la démocratie, quand on élit un représentant, on lui donne tout notre pouvoir. Et donc, c'est pour ça que des mots comme empowerment ou accountability n'existent pas en français. N'ont pas de traduction parce qu'ils n'avaient pas lieu d'être dans cette manière de concevoir la démocratie représentative notamment. Mais on voit bien que c'était pas... ça correspondait pas en fait à comment les choses se passent, c'est-à-dire que les représentants étaient censés être totalement déconnectés et incarner l'intérêt général. Or, il y a tout un tas de facteurs de remise en cause de cet intérêt général à la française qui font que on s'est mis à reconnaître, notamment en 1901, les associations, avant ça les syndicats, comme étant en fait des vecteurs d'une plus grande démocratie et participation de tous pour lutter notamment contre les inégalités.
Alors, vous parliez des associations. Il y a une actualité très forte. On trouve un article de Julien Talpin et Antonio Delfini dans ce numéro de Mouvement qui s'intéresse à la question des libertés associatives qui sont assez grandement menacées aujourd'hui en France.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est tout le travail de l'Observatoire des libertés associatives. Qui recense depuis quelques années tous les cas d'entrave, de répression, des répressions qui peuvent être vraiment fortes. Alors, depuis la loi séparatisme, on a carrément la répression d'État de dissolution, où on le voit après quand il y a juridiquement, c'est pas forcément basé sur des faits, donc c'est vraiment le fait de l'État. Et il y a tout un tas d'enquêtes qui montrent, notamment donc menées par cet observatoire, et par l'ANR laïque aussi, des répressions de la part de l'État, de la part des collectivités locales, de la part aussi parfois de l'extrême droite. Mais de plus en plus, ce qui est inquiétant, c'est que ça vient de manière assez arbitraire de la part de l'État, des préfectures qui prennent le pouvoir, même sur les directions déconcentrées de l'État, comme la DRAC pour les affaires culturelles, et qui vont dicter en fait aux DRAC qui ils peuvent ou non subventionner, par exemple.
Comme souvent dans la revue Mouvement, on trouve à la fois des articles qui sont proches d'articles académiques, puis des entretiens aussi avec des acteurs sociaux. Vous avez choisi par exemple de donner la parole à des gens qui s'intéressent aux alternatives urbaines, Hélène Balaza.
Oui, effectivement, on s'est entretenu avec des personnes de l'association Appui. Appui, c'est une organisation qui intervient dans les quartiers en rénovation urbaine, qui est sollicitée par des collectifs d'habitants qui s'opposent à des projets très descendants, pensés par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, et qui décide sur un quartier de démolir tel et tel immeuble, de tracer telle route, de construire tels équipements ici et pas ailleurs. Et il est censé y avoir un peu de concertation dans ces projets, pour définir ces projets en rue, mais dans les faits, toutes les études et les recherches qui se sont penchées un peu sur les concertations qui s'y passaient, ça reste, comme vous le disiez en introduction, assez gadget. Et donc, le problème, c'est que les collectifs d'habitants qui veulent s'opposer à ces projets, qui, eux, ont une expertise d'usage parce qu'ils y vivent au quotidien, voient bien quels sont les problèmes, qui sont souvent des problèmes de grande pauvreté, de narcotrafic, qui sont pas forcément résolus en cassant des bâtiments, et donc ils ont envie aussi d'avoir leur mot à dire, mais il manque parfois d'expertise plus technique. Et donc l'association Appui, elle va mettre en lien ces collectifs d'habitants avec des étudiants ou des architectes, des urbanistes, qui vont les aider en fait à construire un projet avec leur expertise d'usage, leur expertise architecturale, urbaine, avec cette intelligence collective-là, pouvoir construire des contre-projets urbains. Donc c'est un peu ce droit à l'enquête qui est mis en avant à travers cette association Appui notamment.
Alors dans le numéro, il y a une présence assez forte de la dimension locale. À l'instant, Claude Askelovitch soulignait et célébrait l'importance de la presse locale. De la même manière, vous vous intéressez beaucoup à la démocratie locale. Par exemple, il y a un article de Antoine Gontier sur le droit de pétition. Est-ce qu'il peut renforcer la démocratie locale ?
Oui. Alors, en fait, on revient sur le rapport qu'avaient fait Mohamed Mashmash et Marie-Hélène Baquet en 2013. Et c'est là qu'on avait commencé à parler de démocratie d'interpellation avec la première proposition de ce rapport qui était la création d'un fonds d'interpellation citoyenne qui permettrait de financer justement tous ces contre-pouvoirs de manière autonome de la même manière qu'on finance les partis politiques, par exemple. Il était proposé à l'époque de prendre 10% de la réserve parlementaire pour pouvoir financer les associations de contre-pouvoirs, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Cette proposition au niveau national, ce qui serait quand même plutôt l'idéal, c'est que ça soit porté au niveau national. Comme ça n'a pas été repris par l'Assemblée, ça n'a pas été voté, ça n'a pas été mis en place, des collectivités locales, elles, ont décidé de le faire à l'échelle locale. Donc c'est pas parfait, c'est pas idéal, ça permet aussi d'expérimenter, de montrer ce que ça peut donner à l'échelle locale, de mettre en place des droits d'interpellation, à l'avenir des fonds d'interpellation aussi, pour garantir la vitalité démocratique déjà au niveau local. Le problème, c'est que c'est surtout des villes, on va dire, plutôt de gauche qui permettent ça. Pour autant, elles vont soutenir et elles vont favoriser toutes les interpellations, même celles qui viennent plutôt, on va dire, de la droite, même si c'est pas forcément partisan, mais qui portent des idées, par exemple, contre le stationnement qui devient payant ou contre la suppression de places de stationnement. On va avoir une vitalité démocratique avec, la médiation des conflits qu'on pense être nécessaire à la démocratie, surtout dans les villes progressistes et peut-être pas ailleurs. Donc c'est pour ça que l'idéal, ça serait que ça soit porté à l'échelle nationale.
Merci beaucoup Hélène Balaza. Je rappelle que vous parliez du numéro 121 de la revue Mouvement édité par les éditions La Découverte. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy.